Nous avons le très grand plaisir d'accueillir ce soir M. Jean-François Solnan, agrégé d'histoire, docteur en histoire et en lettres, qui est professeur émérite d'histoire moderne à l'université de Besançon. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes un spécialiste de l'Ancien Régime, mais aussi de l'Empire ottoman. Ah, vous n'entendez pas, alors je recommence. Voilà, donc M. Jean-François Solnan, qui est agrégé d'histoire, docteur en histoire et en lettres, professeur émérite d'histoire moderne à l'université de Besançon, spécialiste de l'Ancien Régime ainsi que de l'Empire ottoman. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'essais et de biographies, dont un Henri III et une Catherine de Médicis, et lauréat de plusieurs prix d'histoire, dont le Grand Prix Richelieu de l'histoire en 92 pour les Ormesson, au plaisir de l'État chez Fayard, et le prix d'histoire de l'Europe en 2009 avec le turban et la stambouline, l'Empire ottoman et l'Europe, 16e-20e siècle, affrontement et fascination réciproque. Concernant le thème de prédilection de notre société d'amis, après un Versailles aux éditions du Chêne en 1999, vous avez publié plusieurs ouvrages chez Perrin, que d'ailleurs les personnes de l'Assemblée ici pourront trouver sur le présentoir à l'issue de la conférence. Donc, une histoire de Versailles en 2003, Le goût des rois, l'homme derrière le monarque, et Louis XIV, vérité et légende en 2015, et puis Versailles, vérité et légende l'année dernière, toujours chez Perrin. Donc le monument nous est si familier qu'on croit en connaître tous les recoins et les secrets, mais les légendes ne manquent pas, et je vous laisse nous en parler et nous surprendre.
Merci madame pour votre présentation. Vous surprendre peut-être, mais rien n'est sûr. Parce que je dois vous faire une confidence, mesdames et messieurs, je suis heureux d'être parmi vous, mais quelque peu intimidé. Parce que parler devant des connaisseurs avertis, des amateurs éclairés, comme on disait naguère, et pour un conférencier à la fois stimulant et redoutable. C'est stimulant parce que vous êtes certainement très exigeant et que vous placez la barre assez haut, mais redoutable parce que vous savez tout du sujet, des grands traits de l'histoire du château jusqu'au moindre détail de son décor. Eh bien, mon propos de ce soir ne vous apportera pas de révélations fracassantes sur ce bâtiment et sur la vie qui s'y déroulait. Il n'y a pas de passage secret inconnu jusque-là que je vous révélerai, un peu comme on trouve des passages secrets dans les pyramides d'Égypte. Il n'y a pas de découverte archivistique qui modifierait la chronologie du château ou l'organisation du chantier. Il n'y a pas d'intrigue de cour dont nul n'aurait entendu parler jusque-là. Non, il s'agit de légendes. Et Versailles, c'est le cas également pour les grands hommes, c'est le cas également pour les grands événements historiques. La rançon de la gloire de Versailles, la rançon de sa notoriété, ce sont les légendes, ce sont les mythes, ce sont les idées reçues. Mon propos de ce soir n'est pas une énième histoire du château, mais c'est de savoir comment se sont formées ces légendes. À quel moment, d'où viennent-elles? Qui les porte ou les colporte ou les alimente? Oh, je suis sûr que chacun d'entre vous en connaît plusieurs. J'ai tenté dans le petit livre que vous avez eu la gentillesse de citer, Versailles, vérités et légendes, j'ai tenté d'en répertorier une quarantaine. Et j'ai livré ainsi au lecteur une sorte de bouquet d'idées reçues ou de préjugés, mais ce n'est pas mon propos de ce soir. Je ne me livre pas un résumé du livre publié. Non, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de rassembler les mythes qui concerne le château, dans son élaboration, dans son achèvement, dans les hommes qui en sont responsables, dans la vie de cour qui s'y déroule, de les rassembler selon plusieurs périodes historiques. La première période, c'est-à-dire les premiers personnages qui ont œuvré, qui ont livré les premières légendes, ce sont d'abord les contemporains. Et j'attacherai de l'importance aux contemporains du créateur de Versailles, c'est-à-dire de Louis XIV. Ces légendes, ça peut être le fait des visiteurs, des courtisans, du roi lui-même. Par conséquent, ce légendaire, pour parler comme les médiévistes, ce légendaire naît avec le château. Ensuite, il y a le légendaire révolutionnaire, ce légendaire qui s'est exalté dans la condamnation de ce que l'on appelait le palais des tyrans. Puis vient le tour du légendaire romantique de la première moitié du XIXe siècle. Et puis celui des républicains, je veux dire par là des auteurs de petits manuels d'histoire, généralement réservés aux enfants des écoles primaires, rédigés par un historien comme Ernest Lavis. Et il y a dans ces manuels d'histoire un légendaire qui a alimenté des générations d'écoliers. Et puis enfin, il y a le légendaire des visiteurs d'aujourd'hui. Et je crois pouvoir dire que ce légendaire s'apparente souvent à une sorte de bêtisier. Certains de ces visiteurs, oserais-je dire, les Américains, les Chinois, les Japonais, mais je les dis rapidement pour pas que vous les reteniez, hein, mais ces visiteurs d'aujourd'hui qui sont très loin, très éloignés de notre culture, notre civilisation, que savons-nous d'où exactement, de la cité interdite ou du palais impérial à Edo ou à Kyoto, hein. Donc ce n'est pas du mépris de ma part, c'est plutôt pour moi un amusement. Certains pensent, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, que le château de Versailles est la demeure de Louis XIV et de Marie-Antoinette réunis, hein, mariés, enfin vivants ensemble en quelque sorte. Alors là, ce sont les grosses bêtises. Il y en a des petites, insidieuses. Je suis sûr qu'il y a de nos compatriotes qui pensent que le petit Trianon est l'œuvre de Marie-Antoinette. Il est vrai qu'elle en a fait son séjour privilégié, mais enfin, le petit Trianon, il a été élevé pour Madame de Pompadour. Or, sa mort a fait que c'est Madame du Barry qui l'a inauguré. Voilà, ça c'est une petite légende, une petite bêtise en quelque sorte. Donc, je vous propose un voyage dans le temps, en suivant ces différentes séquences, depuis les contemporains jusqu'à aujourd'hui, ça sera notre fil d'Ariane. Et vous me permettrez, pour chacune de ces séances, de ces séquences, pardon, de choisir un ou deux exemples. Je vous promets, je n'irai pas jusqu'à 40, comme j'ai pu le traiter dans le livre déjà cité. Ah, tout d'abord, les contemporains. Alors, les contemporains sont très souvent des laudateurs du château. C'est le cas de Madame de Sévigné, qui le fréquente de temps à autre, mais qui n'est pas présente continuellement à Versailles. C'est le cas de Madeleine de Scudéry, dans une promenade qu'elle a pu faire à Versailles. C'est le cas également d'étrangers. Ça, c'est toujours intéressant d'avoir un regard étranger. C'est le regard de Primi Visconti, cet aventurier italien qui nous a laissé d'ailleurs ses souvenirs, ses mémoires. C'est le cas de Martin Lister, un Anglais, en 1698. Donc des laudateurs, certes. Ce n'est pas un palais, c'est une ville entière, superbe en sa grandeur, superbe en sa matière. C'est Charles Perrault. Ça ne veut pas dire qu'il n'en fonde pas des légendes. Et le roi lui-même, je vous le disais il y a un instant, le roi lui-même s'attribue par exemple exclusivement la construction du château. Dans cette phrase, je cite, « Versailles sera telle que je l'ai conçue ». Eh bien, dans cette phrase, Louis XIV nous abuse quelque peu. Je prends des précautions immédiates, il n'est pas question de songer à retirer la paternité de Versailles à Louis XIV, ce serait franchement ridicule. Mais « Versailles sera telle que je l'ai conçue », ça exclut le rôle qu'a pu jouer Madame de Montespan. Madame de Montespan, pour laquelle Louis XIV a fait construire le château de Clagny, non loin de la résidence royale, qui n'existe malheureusement plus et que le roi lui a offert, Madame de Montespan, qui a donné le dessin d'un des bosquets des jardins, le bosquet du Marais, et surtout lorsque on a commencé à faire sortir de terre le château de Clagny, lorsqu'on a présenté les plans et les projets à Louis XIV, le roi a réservé sa réponse. C'est d'ailleurs souvent le cas de l'attitude de Louis XIV, il ne parle pas à tort et à travers, il préfère réfléchir. Vous savez, c'est cette fameuse formule, le roi dit « je verrai ». On s'est beaucoup moqué de cette formule, mais c'est une excellente formule chez un homme politique. Nos politiques devraient s'inspirer d'ailleurs de cette phrase, qui n'est pas de la langue de bois, mais qui permet de détourner un peu l'attention. Donc « je verrai », et que voit-il ? Eh bien, il réserve sa réponse, car, je cite toujours le roi, « je veux savoir les pensées de Madame de Montespan ». Et après avoir rendu son avis, son verdict, c'est après l'avoir vu avec Madame de Montespan. Donc vous voyez, on peut aller jusque dans les nuances infimes pour montrer que là, si on s'en tenait à cette formule « Versailles sera telle que je l'ai conçue », c'est une formule qui mérite d'être nuancée. Et d'ailleurs, vous le savez bien, le rôle des femmes, qu'elles soient épouses et favorites, n'est pas mince dans la demeure royale, soit parce que le roi a construit pour elle un bâtiment, un logement, a aménagé un décor, le cas de Marie-Antoinette évidemment est bien connu. Mais restons encore un moment avec les contemporains de Louis XIV. Prenons l'exemple de Madame Palatine. On ne peut jamais échapper à la belle-sœur du roi, la truculente Madame Palatine. Madame Palatine a accrédité quelques légendes, et en particulier l'une d'entre elles de la vie de la cour, de ses divertissements, en prétendant, je cite, que ce ne sont que des rabâchages, parce qu'on chante uniquement les vieux opéras de Lully, il m'arrive souvent de m'endormir en les écoutant. Alors, rabâchage, on rejoue toujours les mêmes choses. Mais Madame Palatine nous trompe. Le château n'a pas résonné uniquement des créations de Lully, de ce célèbre Florentin. Certes, la cour vit en musique, c'est bien. La vie est une vie musicale, et Lully, malgré son génie, n'aurait pas pu fournir à tout. Par conséquent, le roi ne s'est jamais interdit d'entendre d'autres compositeurs, bien sûr peut-être moins célèbres. Elisabeth Jacquet de la Guerre est connue parce que c'est une femme. Il y a aussi Henri Desmarets, il y a Michel Richard de la Lande, grand souper du roi. La carrière de Michel Richard de la Lande est bien comparable à celle de Lully. Sans doute, à partir de la fin des années 80, fin des années 1680, Louis XIV s'est lassé des grands spectacles. On donne toujours des tragédies lyriques en musique, ce que nous appelons pour faire court des opéras. On en donne toujours, mais on les donne cette fois-ci une fois par semaine, donc moins souvent, périodicité plus courte. Et généralement, on les donne sans décor, sans machine, sans mise en scène. Ce sont plutôt des concerts, en quelque sorte. Est-ce que c'est du rabâchage des œuvres de Lully, comme le prétend la princesse Palatine? Non, il y a une nouvelle génération de compositeurs, de ces compositeurs qui voient s'ouvrir devant eux les portes de Versailles. C'est le cas de Campra avec l'Europe galante, c'est le cas de Destouches avec sa pastorale héroïque qui s'appelle Issé ou Omphale. Alors, il est vrai que le vieux monarque se contente de morceaux choisis, a toujours en effet un acte ou deux actes d'Armide, de Lully, d'Attis, du même Lully, mais il écoute également des choses très nouvelles, j'allais dire modernes, très nouvelles, en particulier la tempête d'Alcyone de Marin Marin. Et à la fin de sa vie, ce vieux monsieur dont les goûts pourraient être figés, regardant uniquement ce qu'il a aimé quand il était plus jeune, c'est un trait assez commun dans l'histoire de chacun d'entre nous, eh bien en 1713, deux ans avant de mourir, Louis XIV crée le poste d'inspecteur général de l'opéra, pour Destouches d'ailleurs, Destouches qui est considéré comme le meilleur compositeur dramatique depuis Lully, Destouches qui se situe, si vous voulez, entre Lully et Rameau, dans la suite de Lully et annonçant en quelque sorte Rameau. Donc vous le voyez, la musique de Lully, aussi importante soit-elle, n'a pas été le seul langage musical de Versailles. La musique de Lully n'a pas régné sans partage. À Versailles, il y a eu les œuvres de contemporains. Voilà donc un contemporain, Madame Palatine, qui a souvent la dent dure, qui s'exprime avec beaucoup de truculence. Mais là, elle nous introduit dans l'erreur. Et puis, il y a un autre contemporain. Un autre contemporain créateur de légendes. Et ce n'est pas le moindre des contemporains, puisqu'il s'agit, vous le devinez déjà, de Monsieur le Duc de Saint-Simon. Mais je viens de prononcer un mot qui mérite explication. Contemporain. Vous êtes sûr que c'est un contemporain ? Saint-Simon est né en 1675, c'est-à-dire 40 ans. Non, il est mort en 1755, il est né en 1675, c'est-à-dire que Louis XIV, lui, est né en 1638. 1638 pour Louis XIV, 1675 pour Saint-Simon, et il meurt au milieu du XVIIIe siècle, 40 ans après la mort du roi. Quand il naît, Louis XIV a déjà 37 ans. Et Saint-Simon a 14 ans de plus que Montesquieu, 19 ans de plus que Voltaire. Or, Montesquieu et Voltaire sont considérés comme des hommes des Lumières, de l'autre siècle, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas toujours un témoin direct. À la différence de deux courtisans qui ont laissé leur journal ou leur mémoire, c'est-à-dire le marquis d'Anjou ou le marquis de Sourches, qui sont des sources d'ailleurs pour nous considérables, et que Saint-Simon a pillés littéralement, mais il les a transformés grâce à son style inimitable, si vous voulez, puisqu'il fait partie quand même des grands écrivains français. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas l'exact contemporain et qui n'est pas non plus un juge impartial. Saint-Simon a toujours eu des comptes à régler avec le roi, avec son entourage, avec les ministres. Or, Saint-Simon n'a cessé de critiquer Versailles. Le cite, le plus triste et le plus ingrat de tous les lieux. Sans vue, sans bois, sans eau, ce qui n'est pas faux, sans terre, parce que tout y est sable mouvant et marécage. Voilà pour le site. La construction, jugée archaïque, avec l'emboîtement des trois cours face à la ville qui se rétrécissent de l'avant vers l'arrière, l'avant-cour, la cour royale, la cour de marbre. Saint-Simon blâmant le côté Janus du château. Côté Janus parce qu'il oppose à l'ouest, sur les jardins, une façade de pierre, alors que vers la ville, à l'est, c'est une façade de briques et pierre. Et là, avec le talent littéraire qu'on lui connaît, Saint-Simon résume le tout en disant que le roi a cousu ensemble le beau et le vilain, le vaste, façade sur les jardins, et l'étranglé, la succession des trois cours. Juge-t-il les toits ? Le renoncement aux toitures élevées, selon la tradition française des pavillons, le renoncement aux toitures élevées au profit des toits en très faible pente, pour lui, ça veut dire que ça ressemble à un palais qui a été brûlé, où le dernier étage et les toits manquent encore. Allez, encore un dernier exemple parce que ça nous amuse beaucoup. La chapelle royale de 1710, faite de pierre, et évidemment contrastant avec l'appareillage de pierre et de briques sur les bâtiments tournés vers la ville. Et c'est vrai parce que le vaste et l'étranglé, le beau et le vilain, on peut encore le comprendre, on est dans la ville, on a le dos qui tourne le dos, on tourne le dos à la place d'armes et on regarde le château, il est tout de briques et pierres. Pour voir le château de pierre, uniquement de pierre, il faut quand même faire le tour, on ne peut pas les voir ensemble. Tandis que maintenant, avec cette chapelle du 1710, on a le château de briques et pierres, et à côté, et on le voit en même temps, on a la chapelle royale. La chapelle dont le haut comble, et on s'en rend compte aujourd'hui dans son état de restauration, qui dépasse les toits voisins et qui semble écraser le palais. Eh bien, Saint-Simon ne voit dans cette chapelle qu'un, je cite, « immense catafalque ». Bon, alors vous allez me dire, ceci, ce sont des jugements esthétiques, partagés d'ailleurs par d'autres, avec moins de talent sans doute, moins de malice aussi. Ce sont des jugements esthétiques, ce ne sont pas des légendes. Mais c'en est une de légende lorsque le duc affirme que Versailles a été la cage dorée de la noblesse française. Et ce jugement, cage dorée de la noblesse de France, a été inlassablement repris dans les siècles suivants et encore dans les esprits d'aujourd'hui. Pour beaucoup, Versailles n'a été qu'une gigantesque officine où les grands seigneurs du royaume se sont transformés, se sont changés en domestiques. C'est ce que nous dit déjà La Bruyère dans les caractères, c'est ce que nous dit également Montesquieu début du XVIIIe siècle dans les lettres persanes. On moque ces grands seigneurs qui intriguent pour obtenir le droit de présenter au roi sa chemise le matin ou le soir, de lui présenter le fameux bougeoir au coucher de sa majesté. Il s'agit simplement, dans une salle éclairée à giorno, hein, d'allumer un bougeoir et de le céder à un courtisan que le roi a remarqué, qu'il va tenir pendant quelques minutes, sinon quelques secondes, et il sera miraculé par cette faveur royale. À Versailles, disait Saint-Simon, les grands même sont petits. Eh bien, c'est imposer l'idée, et qui est encore dans de nombreux esprits aujourd'hui, c'est imposer l'idée que Louis XIV avait domestiqué les nobles, domestiqué la noblesse, et que ces nobles étaient devenus en quelque sorte des laquais. Domestiqué. Ah, voilà un mot qui court dans les manuels d'histoire aujourd'hui encore. Le chef-d'œuvre du roi de France aurait été d'enfermer, le chef-d'œuvre ou la tyrannie, je ne sais pas comment il faut dire, aurait été d'enfermer la noblesse de France dans une prison dorée, de l'avoir privée de toute liberté, de l'avoir corsetée dans un code de préséance qu'on n'appelait pas encore l'étiquette, mais qui est l'étiquette que l'on connaît, et d'avoir transformé ses membres en serviteurs dociles. Alors, est-ce vrai ? Louis XIV a-t-il rassemblé autour de lui la noblesse de France uniquement par le souci orgueilleux d'en être le centre ? Est-ce qu'il n'a pas voulu, selon le mot de Saint-Simon, mortifier la noblesse de France ? Eh bien, on peut répondre à cette idée reçue. D'abord, et ceci vous le savez, la présence des gentilshommes à la cour répondait à un dessein politique. Louis XIV n'ignorait rien de l'agitation nobiliaire du passé. Il connaissait évidemment, il avait vécu lui-même les épisodes de la Fronde. On lui avait aussi enseigné la révolte des grands sous le règne de son père, Louis XIII. Et il pouvait encore remonter un petit peu plus loin dans l'histoire en évoquant ce qu'on appelle les guerres de religion, qui étaient aussi des guerres civiles. Eh bien, Louis XIV, qui s'est rappelé tous ces événements-là, regardez comme aujourd'hui, un siècle après la signature de l'armistice, on est encore marqué par cet événement, même si on n'a pas connu, bien entendu, par définition, cette période-là. Eh bien, songez à Louis XIV qui a été profondément marqué par les événements où les grands se révoltaient contre le monarque. Et ainsi, il a voulu soumettre les grands à l'assiduité. Mais pour imposer cette autorité sur la noblesse de France, il n'a pas pour autant déraciner, comme le dit Saint-Simon, la noblesse française. L'explication de Saint-Simon est tout à fait outrée. regardez, observez les chiffres. Le royaume comptait à l'époque environ, les historiens discutent beaucoup, mais environ 200 000 nobles. Versailles en accueillait environ 5 000. Je parle que des nobles, je ne parle pas des roturiers qui étaient à Versailles ici. Ces nobles servaient par quartier, c'est-à-dire par trimestre. Et par conséquent, ça permet de doubler le chiffre. Disons donc 10 000. 10 000 sur 200 000 nobles du royaume. Ça veut dire que Louis XIV n'a déraciné que 5% des gentilshommes français. Donc le second ordre ne s'est pas précipité dans la cage dorée de Versailles. Et puis, la soumission qui est réclamée par le roi va de pair avec la puissance de certains de ces nobles. Un noble de province, un hobereau, sans influence, sans ambition, qui ne songe qu'à faire rendre sa terre en quelque sorte, il n'est pas attendu à Versailles. Mais on s'en moquerait. Un gentilhomme moyen, on admet qu'il faudrait qu'il se montre au moins une fois par an. En revanche, le grand seigneur influent doit être soucieux de plaire au roi, de rechercher ses grâces, par conséquent de faire sa cour, et de le faire avec empressement, et de le faire avec régularité. Alors, Versailles a été un havre pour les premiers personnages du royaume. Il n'a pas été l'Arche de Noé du second ordre. Et d'ailleurs, réfléchissons, le réveil de la noblesse après la mort du roi, au temps de la régence et des premières années du règne de Louis XV, le réveil de la noblesse après 1715 démontre assez que la prétendue domestication, la prétendue soumission, voire l'anéantissement de la noblesse, dénoncé par Saint-Simon, n'est qu'une légende, n'est qu'un mythe. Donc voilà quelques éléments, vous le voyez, des contemporains de Louis XIV, de Madame Palatine à Saint-Simon, je pourrais choisir d'autres témoins. Avec la Révolution, deuxième séquence, avec la Révolution, les légendes, comme les fausses nouvelles d'ailleurs, ces légendes vont fleurir. Le château n'a pas été détruit, il n'a pas été démoli, il n'a pas été brûlé comme le seront les Tuileries en 1871. Malgré les orateurs des assemblées révolutionnaires ou les orateurs des clubs qui promettaient régulièrement d'ailleurs la destruction du château, et on cite souvent cette phrase de Charles de la Croix, le père putatif du peintre de la Croix, qui proposait, je cite, de faire passer la charrue sur le palais des rois. Eh bien, la Révolution entendait, à défaut de détruire le château, de noircir la mémoire de l'antre des tyrans. Et on a considéré que Versailles avait été un luxe inutile, d'une part, et d'autre part que Versailles avait décapitalisé Paris. Voici une formule qui est due à un philosophe, journaliste, député, adversaire de l'Ancien Régime, Volney. Volney écrivait « Si Louis XIV eut employé en chemin et en canot les 2 milliards de numéraires qu'a coûté son château qui croule, la France n'eût vu ni la banqueroute de l'As, ni ses conséquences. » C'est-à-dire que pour Volney, les écus engloutis dans la demeure du château auraient été mieux employés dans des travaux d'équipement, les chemins et les canaux, qui étaient utiles à tous. Eh bien, Volney oubliait que l'édification du château a servi l'économie du pays. Versailles a employé des travailleurs du bâtiment, venus de partout, peut-être prioritairement du Massif central, de la région du plateau de Mille Vaches par exemple, mais également de Normandie. À Versailles, travaillent des maçons, travaillent des limousins, travaillent des tailleurs de pierre, travaillent, je le fais dans un ordre hiérarchique croissant, des appareilleurs, qui viennent de partout, une foule d'artisans. Mais Versailles consomme également des matériaux de construction. Et le château dépend de fournisseurs dispersés dans tout le royaume. Des forêts et des carrières viennent des bois, des marbres, de l'ardoise, de la pierre. Créer des jardins a imposé de faire venir de toute la France des ormes, des ifs, des charmilles, des érables qui ont été achetés dans les pépinières royales. Et puis il y a les voituriers, car il faut les apporter jusqu'à Versailles, hein, ces matériaux. Les voituriers tirent profit, tirent bénéfice de ces achats en province. Et les contrats de voiturage engagent des sommes qui sont des sommes considérables. Par exemple, des marbres des Pyrénées, auxquels il faut faire descendre la Garonne et ensuite passer par mer dans l'Atlantique, dans la Manche et remonter ensuite la Seine. Ce sont des contrats de voiturage qui atteignent des chiffres considérables. Et puis aussi, Versailles a été soumis à un dogme colbertien qui est celui de développer la production nationale. En réduisant les achats à l'étranger, et nous y sommes sensibles nous autres aujourd'hui, peut-être qu'il y a 40 ans, j'aurais présenté cet argument, personne n'y aurait trouvé à redire, parce que ce n'était pas notre préoccupation, mais aujourd'hui on y est sensible. Achetons français. Jusque-là, on importait du marbre de Carrare, c'est vrai que c'est l'excellence dans ce domaine, on importait du verre de Murano, des tapisseries de Bruxelles, du cuivre de Suède, des velours et des brocarts de Gênes. Et le château aurait pu renouveler ses achats. Il aurait pu le renouveler parce que les matières fournies étaient d'excellente qualité et les maisons qui les fabriquaient étaient des maisons solides, des entreprises solides. Il aurait pu continuer à renouveler ses achats. Mais Versailles s'était forcé d'acheter français. Alors acheter français, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire prospecter systématiquement les matières premières dans le royaume, y ajouter un espionnage industriel dont personne ne va se plaindre aujourd'hui encore, puisqu'on sait que c'est la règle. Hein, il faut espionner évidemment les concurrents étrangers pour faire aussi bien qu'eux. C'est-à-dire que le chantier versaillais a stimulé la production française, mais il a également encouragé les progrès techniques. Et c'est particulièrement net à propos du coulage et du laminage du verre qui produisent ces glaces façon Venise, pour éviter justement d'importer du verre de Murano. Et des glaces façon Venise de plus en plus grandes, de taille de plus en plus grande. Quand vous regardez évidemment les miroirs cloisonnés de la galerie des glaces, c'est encore des miroirs de petite dimension. Oui, mais quand vous fréquentez le Grand Trianon, et vous avez dans les trumeaux, hein, entre deux fenêtres, eh bien vous avez de grands miroirs qui témoignent des progrès techniques de la fabrication et que le roi aime à montrer évidemment à ses visiteurs étrangers, et notamment aux ambassadeurs étrangers. Et puis, outre son rôle politique que j'évoquais tout à l'heure à propos de la noblesse, eh bien Versailles possède une fonction économique à l'échelle du royaume en donnant du travail. Du travail à une main-d'œuvre abondante, une main-d'œuvre diversifiée, en passant des commandes aux fournisseurs répartis dans tout le pays et en participant à une politique économique, commerciale, industrielle, dont on attend la gloire du prince, mais également la richesse pour le pays. Oui, Versailles, l'édification de cette résidence a été utile à l'économie du royaume. Ça, c'était la première idée reçue tirée des révolutionnaires, et j'ai cité tout à l'heure Volney. Vous avez vu qu'il y avait aussi un deuxième reproche. Versailles aurait décapitalisé Paris. Bon, la Révolution, vous savez, c'était le triomphe de Paris, le lieu de réunion des assemblées, le lieu de réunion des clubs, et même la résidence forcée du souverain jusqu'au 10 août 1792. Les révolutionnaires ont décrété que sous l'Ancien Régime, qu'ils abhorrent, eh bien, Versailles avait décapitalisé Paris. Déjà même avant la Révolution, Voltaire avait affirmé, je cite, que les dépenses de 3 bosquets auraient suffi pour les embellissements nécessaires de la capitale. Voltaire a le sens de la formule, comme on sait. On sait pourquoi Louis XIV a préféré Versailles à Paris pour établir sa résidence. Chacun le sait. Ce qui vient à l'esprit très souvent, c'est sa passion pour la chasse. Il y avait bien d'autres endroits en dehors de Versailles pour assouvir cette passion. Il y a comme autre raison, dit-on, le souvenir des troubles, justement, de la régence de sa mère, à l'époque de la Fronde. Il y a aussi le goût pour les grands espaces, pour le grand air, sa prédilection pour les grandes fêtes. Il faut de l'espace pour donner des grandes fêtes, surtout des grandes fêtes champêtres. Il y a aussi l'idée qu'il y avait l'impression d'être encerclé dans Paris. Paris n'est pas une ville très aérée au XVIIe siècle. Par conséquent, l'idée de vivre au loup, vivre encerclé par le reste de la population. Et puis il y a aussi une autre raison encore. Vous pouvez peser tout ça sur un trébuchet, n'est-ce pas, savoir quelle est la plus importante, faire une hiérarchie, bien entendu, mais il y en a une autre. C'est faire œuvre personnelle. C'est de créer soi-même, sa résidence. Eh bien, définitivement, il a décidé de résider à Versailles, vous le savez, en 1682, ce qui est quand même tardif. On est au mi-temps du règne. Il ne reste plus qu'une année à vivre à la reine. Il ne reste plus qu'une année à vivre à Colbert, qui appréhendait tellement l'installation de la cour à Versailles. Mais Paris n'a pas perdu son statut de capitale du royaume. Les services ministériels sont partagés entre le château et Paris. Même si Versailles compte la chancellerie, votre conservatoire aujourd'hui, la surintendance des bâtiments, les ailes des ministres qui nous accueillent lorsqu'on pénètre dans le château, mais enfin les bureaux, l'administration demeurait à Paris. Et puis, en 1718, 3 ans après la mort du roi, le chancelier a été fastueusement logé à Paris, place Vendôme, et le ministre de la Justice y est encore aujourd'hui. Le contrôle général des finances, il était affecté à un hôtel qui se trouve à Paris, rue Neuve des Petits Champs. Mais j'entends déjà votre objection, que je reçois vraiment, c'est que Louis XV avait décidé tout de même de réunir à Versailles 2 départements ministériels dans 2 hôtels absolument somptueux, l'hôtel de la guerre et celui des affaires étrangères et l'hôtel de la marine, la bibliothèque municipale de Versailles. Mais enfin, le couple, c'est un couple. Le couple Paris-Versailles, c'est la règle. Et le roi n'a pas négligé sa capitale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand vous regardez le nombre et la qualité des bâtiments qui ont été édifiés par Louis XIV, à la fin des années 60, c'est la salle des machines aux Tuileries. À Vincennes, c'est le pavillon du roi et le pavillon de la reine. C'est le Val-de-Grâce. C'est le Collège des Quatre Nations, l'Institut de France aujourd'hui, les Gobelins, l'Observatoire, la cour carrée du Louvre avec sa façade orientale, c'est-à-dire la colonnade, comme on dit aujourd'hui. Et quand on passe aux années 70 du XVIIe siècle, il y a d'autres imposants bâtiments qui sortent de terre. Il y a la Salpêtrière, il y a le prestigieux hôtel des Invalides, qui est une des gloires de la France. Il y a les portes triomphales de Saint-Denis et Saint-Martin, en tout cas celles qui subsistent encore aujourd'hui. Il y a les Champs-Élysées, aménagées par le nôtre. Et puis s'ouvrent les chantiers de la place Louis-le-Grand, future place Vendôme, le pont royal. Enfin, on le voit, Paris a été plutôt choyé par le roi. Contrairement à cette légende, à cette idée reçue, le roi de Versailles n'a pas oublié Paris. Et ses successeurs n'ont pas négligé pour autant la capitale. Quand on voit la liste des travaux qui date du règne de Louis XV, voire du règne de Louis XVI, on voit que Versailles n'a pas étouffé Paris. Et puis, il y a un troisième moment dans l'élaboration de ces légendes, c'est l'époque romantique. Alors, les romantiques aimaient à relever les traits de sensibilité chez les hommes du passé. Les romantiques étaient friands d'explications psychologiques. Ils ont d'abord assuré que Versailles était né de la jalousie de Louis XIV envers Fouquet. Alexandre Dumas expliquait, je cite, que cette idée qui avait germé au cœur de Louis XIV en visitant le château de Fouquet, de faire un palais et des jardins qui surpassassent ceux de Vaux, commençait à porter ses fruits. Il était également convaincu, notre cher auteur des Trois Mousquetaires, que le fils de Louis XIII a respecté, je cite, l'asile où son père avait trouvé les seuls moments de repos de son règne, les seules heures de joie et de sa vie, et il ordonna que le château de Cartes, dût-il nuire à l'ordonnance générale, fut enchâssé dans le palais de marbre. Alors que le modeste château de Cartes, expression curieuse, difficile à comprendre, peut-être est-ce brique, pierre et ardoise qui constituaient les matériaux du château, que ce modeste château de Cartes de Louis XIII soit resté visible au cœur même du château de Louis XIV, dans une sorte de défi, c'est vrai, à l'art de bâtir, l'opinion l'attribua à la piété filiale du roi Soleil à son père. D'une villégiature, Louis XIV a voulu faire une véritable résidence, assez vaste, pour accueillir les invités nombreux, pour y tenir le conseil pendant son séjour. Par conséquent, il a hérité de ce château de Louis XIII, mais il voulait l'agrandir. Comment ? Un agrandissement en surface ou en hauteur supposait la conservation du château de Louis XIII, puisqu'il s'agit d'un agrandissement. Est-ce qu'il ne fallait pas mieux l'abattre ? Puis construire sur table rase, c'est-à-dire construire de neuf ? Ce choix s'est posé à Louis XIV. Conserver ou détruire ? Il hésite. Il hésite, et ses contemporains qui nous ont laissé des témoignages ne nous facilitent pas la tâche, parce que Colbert assure que le monarque a ordonné publiquement la destruction du petit château de Louis XIII. Charles Perrault, l'administrateur des bâtiments, affirme le contraire. Louis XIV ne voulut pas consentir à la disparition de la maison de son père. On a beau lui présenter que ce petit château de briques et de pierres menaçait ruine, Louis XIV aurait exigé de le voir rebâtir si c'était nécessaire. Et puis si vous vous imaginez que vous allez le détruire en mon absence, eh bien je le ferai rebâtir tout tel qu'il était et sans ni rien changer. Parole du roi est forte. Alors la campagne de travaux a été ouverte en mai 1668. C'est important parce que c'est après la signature de la paix d'Aix-la-Chapelle qui mettait un terme à la guerre de dévolution. En octobre de la même année, on commença de construire autour du château de Louis XIII un château neuf. Je dis bien autour. Trois murs qui ont été élevés du côté des jardins, donc au nord, à l'ouest, au sud. Le château vieux, le château de Louis XIII, a été ainsi enveloppé et par conséquent il devait être conservé. Or, changement brutal, 8 mois plus tard, en juin 1669, le mur est à 6,50 m de hauteur, les travaux sont interrompus. L'ouvrage n'a pas été poussé plus avant. Le roi ordonne de tout détruire, y compris le château de son père. Et de bâtir sur table rase. Et pour ça, il ouvre un concours d'architectes Les plans de Louis Levaux ont été retenus. La cour d'honneur du nouveau palais occuperait l'emplacement du château vieux qui aurait été démoli. Changement. Nouveau revirement à l'automne de la même année 1669. Le projet d'abattre le petit château pour construire des bâtiments entièrement neufs, ce projet a été abandonné. On en revient à l'idée de l'enveloppe, au nord, à l'ouest et au sud. Donc on en revient au respect de la demeure de Louis XIII. Donc pour la seconde fois, Louis XIV a changé d'avis. Alors depuis trois siècles, on cherche à en pénétrer les raisons. L'explication la plus courante est sensible à la force des traditions familiales. La survie du château vieux s'expliquerait, nous disent les romantiques, s'expliquerait par la piété filiale du jeune roi envers son père. Réfléchissons. Louis est né en 1638. Louis XIII est mort en 1643. Par conséquent, le roi Soleil n'a connu son père que les cinq premières années de sa vie. Si Louis XIV a bénéficié d'un héritage affectif, c'est à la tendresse de sa mère qu'il le doit, Anne d'Autriche. Le souvenir de son père, j'allais dire trop tôt disparu pour le roi, le souvenir de son père s'est estompé. Et ce souvenir a été relayé par l'affection que lui a manifesté non seulement sa mère, mais son parrain, c'est-à-dire le cardinal Mazarin, une sorte de substitut de père. Mazarin qui lui a enseigné le métier de roi. Et puis, dites, ce serait quand même paradoxal que le legs de Louis XIII à son fils se limita à une petite maison de chasse, un petit château archaïque dont personne ne voulait, comme le disait un ambassadeur de Venise, une piccola casa per ricreazione. Rien du tout, si c'était que ça, le souvenir de son père. Mais enfin, si on tient toutefois à privilégier cette idée de fidélité du fils au château de son père, on notera que Louis XIV, avant juin 1669, n'a pas hésité à rayer d'un trait de plume, au moins sur le papier, la maison préférée de son prédécesseur. Maison qui était déjà démodée du temps de Louis XIII. Le revirement d'octobre 69, qui décida d'envelopper le château vieux, est-ce que c'est un remords ? On peut en douter. Abattre le petit château de briques et pierres ainsi que les bâtiments inspirés de ce style et reconstruire tout sur table rase aurait beaucoup coûté, aurait coûté infiniment. Par conséquent, la conservation du château vieux est moins la marque de l'attachement du roi à l'œuvre de son père qu'à une réflexion financière, un coût trop élevé. Alors je vous l'accorde, c'est moins romantique que la piété filiale. Mais c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Les comptes, les chiffres, le coût de Versailles, ça c'est un thème qui est très cher à l'histoire du 19e siècle, l'histoire républicaine, l'histoire des manuels d'histoire de l'école publique du 19e et du début du 20e siècle. La Troisième République s'est présentée comme un régime attaché à un certain nombre de valeurs, à une relative morale, je dis relative morale parce que chacun connaît évidemment ce qui peut se passer sous la Troisième République, mais à ce sérieux, à cette moralité, voire à ce moralisme, les républicains opposaient volontiers les dépravations de l'Ancien Régime, opposaient volontiers les frivolités de l'Ancien Régime, les abus, voilà le terme. Les abus de l'Ancien Régime. Et Versailles, mais c'est le symbole même de cet Ancien Régime. C'est le symbole de ces abus. Les fêtes, nous disent-ils, les fêtes auraient été permanentes. Les courtisans des oisifs, le coût de la construction du château complètement démesuré. Je n'invente rien, puisque je vais vous citer Ernest Lavisse. Dans les manuels destinés aux écoles primaires, il est beaucoup plus objectif dans son Louis XIV, destiné à des adultes. Mais pour les enfants, vous trouvez ces phrases. Le roi donnait trop de fêtes. Cela coûtait trop d'argent. Il regrettait d'avoir dépensé trop d'argent en construisant des châteaux et en donnant des fêtes. Donc le lieu de plaisir, c'est Versailles. Versailles aurait ruiné donc la France. Je cite toujours Lavis. Louis XIV dépensa sans compter l'argent de ses sujets pour satisfaire son orgueil. Sa cour et les palais qu'il fit bâtir, surtout le palais de Versailles, coûtèrent des sommes énormes. Et Lavis renchérit sur Michelet, Versailles était un monstre de faste et de dépenses. Vous imaginez ce que ces phrases fortes pouvaient avoir comme impact sur des gamins de 10-12 ans. Des phrases qui n'étaient pas seulement dans le texte même de la leçon, mais qui étaient dans le résumé. C'était épatant d'ailleurs, hein, je dis ça par parenthèse, les petits résumés, vous savez, qu'on trouvait en chapeau avant le chapitre lui-même. Donc ce sont des phrases très fortes, et probablement l'instituteur demandait à ce que les élèves apprennent par cœur, hein, ce petit résumé. Alors, qu'en est-il ? Oui, bien sûr, Versailles accueille des divertissements réguliers. D'ailleurs, je vous rappelle quand même la finalité de Versailles, c'est d'attirer à la cour les grands seigneurs du royaume. On n'attire pas les grands seigneurs du royaume en leur donnant une atmosphère de couvent. Par conséquent, il faut les attirer, il faut les retenir. Et les divertissements, en effet, sont réguliers. Mais les grandes fêtes champêtres ne concernent que le début du règne. C'est-à-dire au temps où Versailles n'était encore qu'une villégiature. Ce sont les plaisirs de l'île enchantée, 1664. Le grand divertissement royal, 1668. Les fêtes célébrant la conquête de la Franche-Comté, 1674. Ces fêtes spectaculaires ont été les dernières d'un règne, un règne qui s'est achevé que 40 ans plus tard. Après 1682, c'est-à-dire après l'installation définitive de la cour à Versailles, Versailles a connu d'autres fêtes brillantes, personne ne le nie, mais des fêtes qui n'ont pas eu le caractère exceptionnel des trois que je viens de citer. Le château a célébré somptueusement des mariages princiers, il a offert des divertissements somptueux, il a reçu fastueusement des ambassadeurs étrangers, vous avez vu l'exposition l'année dernière sur les visiteurs à Versailles. Mais il n'a jamais renoué avec le faste des grandes fêtes champêtres. D'ailleurs, c'était difficile matériellement parlant parce que le jardin qui s'était considérablement développé était beaucoup trop fragile pour accueillir des milliers de visiteurs. Eh bien, ni les guerres extérieures, ni les difficultés financières du royaume n'ont permis à Versailles et à ses hôtes de vivre dans une atmosphère de fête perpétuelle. Divertissement, oui, fête perpétuelle, non. Reste le coût de la construction du château. Alors là, il n'y a pas de sujet plus rabâché, il n'y a pas de critique plus constante que cette histoire du coût. Ça, c'est le cheval de bataille de la Troisième République contre l'Ancien Régime. Mais la Troisième République, avant que celle-ci, Troisième et Quatrième et Cinquième République, avant que celle-ci, au pluriel, ne se livre elle-même à des dépenses somptuaires, hein, occasionnées par des constructions architecturales dont nous sommes les contribuables, dont chaque contribuable conserve le souvenir. Eh bien, les comptes des bâtiments du roi existent. Ils ont été tenus depuis 1664. Avant, on n'a que des estimations. Mais à partir de 1664, on peut examiner en détail les comptes des bâtiments du roi. Ils ont d'ailleurs été publiés, on peut mesurer le coût de Versailles. Alors, je ne vais pas vous imposer un chapelet de chiffres, mais simplement quelques remarques. La première remarque qu'on a souvent tendance à oublier, c'est que la guerre et la paix ont rythmé la construction de Versailles et ses embellissements. L'ouverture d'une guerre ralentit les dépenses, les diminue, parfois de moitié, parfois de trois quarts, ou alors les interrompt complètement. Les chantiers sont fermés. À l'achèvement de la chapelle royale, la reprise de la guerre de succession d'Espagne 1701-1713 a rendu impossible toute transformation du château. Dès que la paix est signée, les dépenses à nouveau s'envolent et les chantiers sont relancés. Par exemple, l'année 1685, qui voit entreprendre la construction de l'aile du Nord et la construction de l'Orangerie, cette année 1685 détient un record de dépenses. C'est 6 millions de livres tournois, somme jamais atteinte jusque-là et qui ne sera plus jamais dépensée. 1685. 3 ans plus tard, s'ouvre la guerre de la Ligue d'Augsbourg, 1688. Eh bien, durant 9 ans, la durée de la guerre d'Augsbourg, la moyenne des dépenses est inférieure, moyenne annuelle des dépenses est inférieure à 300 000 livres. Vous voyez la différence, période de paix, période de guerre. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, est-ce qu'on peut estimer le coût total de la construction de Versailles, y compris la coûteuse machine de Marly, y compris les insensés travaux de dérivation de la rivière d'Eure pour alimenter les fontaines du château. Eh bien, de 1661, je vous ai dit que de 61 à 64, c'est des estimations, 64 c'est plus sûr, mais mettons de 61 jusqu'à la mort de Louis XIV, Versailles aurait coûté environ 82 millions de livres tournois. Je vais dire, mais ça ne nous dit rien. Peut-on avoir une équivalence? Bah, écoutez, il faut être sérieux, c'est très délicat. C'est très délicat pour plusieurs raisons. C'est délicat parce que on assiste au cours de l'Ancien Régime à une variation de la monnaie. La livre tournois n'a été stabilisée qu'à partir de 1726. Ensuite, on aura le franc germinal, puis après on aura le franc or, c'est-à-dire jusqu'à la guerre de 14. Mais c'est 1726. Avant, il y a des manipulations monétaires qui nous donnent le tournis, hein, d'ailleurs. Donc, c'est très délicat. Et ensuite, l'oscillation des prix et des salaires. Est-on en période d'inflation, période de déflation? Il y a des changements de mentalité. Et il faut en tenir compte. Ces changements de mentalité jugent à certains moments, à certaines époques, des dépenses de prestige indispensables. Puis à d'autres époques, on les condamne. Tout dépend du caractère de la nation à une époque donnée. Donc, la somme est élevée. François Bluche s'était enhardi à proposer une équivalence que je vous livre. Le coût de Versailles, ce serait le coût d'un porte-avions atomique. Dont acte. Mais enfin, le contribuable, de toute façon, renacle toujours devant les efforts exigés par le fisc. Et il s'érige quelquefois en censeur des dépenses jugées trop importantes, la bibliothèque François Mitterrand, l'Opéra Bastille, rappelez-vous, au moment de la construction. Tout ça paraît très très élevé. En tout cas, subsiste l'idée, malgré les chiffres qu'on possède, subsiste l'idée tenace que la splendeur du château est ternie par les sommes énormes qu'il aurait exigées. Une troisième remarque. Nos contemporains peuvent mieux que les hommes du XVIIe ou du XVIIIe siècle apprécier la balance entre les pertes et les profits. Est-ce que les dépenses de Versailles ont été véritablement dispendieuses au regard, 1, de l'éclat de la cour de Louis XIV qui a rayonné dans toute l'Europe et même au-delà? 2, au regard de la pacification nobiliaire que Versailles a permise. 3, du prestige dans le monde du siècle de Louis XIV. Aujourd'hui, où nous n'avons plus ni vous ni moi à payer la construction du château, on peut considérer qu'il convient d'être plus sensible au rayonnement de Versailles qu'au sac d'écu que cette construction a exigé. Mais enfin, Le coup de Versailles, c'est une antienne qui a été infiniment répétée chez les historiens romantiques, dans les manuels d'histoire, chez les visiteurs également aujourd'hui. Vous les avez tous entendus, ces visiteurs. On dit souvent, vous savez, que l'objet qui entend le plus de bêtises quand il est observé par un visiteur, c'est un tableau de peinture, une peinture donnée. C'est vrai que ça doit être vrai, d'ailleurs. On dit beaucoup de bêtises les uns et les autres, mais alors Versailles, c'est un aimant à bêtises. C'est un aimant à bêtises de visiteurs trop peu informés, donc ils ont leurs préjugés, leurs idées fausses. Et il faut bien l'admettre, malgré les conservateurs du château, malgré, je dois bien l'avouer, les ouvrages des historiens, ou malgré quelques bons documentaires qu'on peut voir dans de bonnes émissions de télévision sur les bonnes chaînes. Je ne vais pas abuser de votre temps, mais il me semble que l'on peut terminer en choisissant entre 10, hein, une seule curiosité qui est souvent répétée, y compris, je dois l'avouer, par des historiens dont je ne veux pas me faire des amis donc ce soir, c'est que Versailles aurait été créé autour de la chambre du roi. C'est vrai que la chambre du roi, qui est le lieu le plus visité avec le grand appartement, est au centre du château. Et lorsqu'on tourne le dos à la ville, l'œil est attiré par le fond de la cour de marbre, où à l'étage noble, trois baies en plein cintre indiquent son emplacement. On s'aperçoit d'ailleurs que cette pièce s'ouvre au soleil levant et qu'elle s'inscrit donc sur l'axe est-ouest du domaine, depuis la place d'Armes jusqu'au bassin d'Apollon à l'extrémité du Grand Canal. Le choix qu'avait fait Louis XIV de l'emblème solaire, qui n'est pas le premier souverain à l'avoir choisi, mais enfin ce choix de l'emblème solaire suggère que la chambre du monarque aurait été délibérément placée sur ce parcours quotidien de l'astre solaire. Louis XIV aurait réussi une admirable mise en scène de son pouvoir et adapté sa chambre à la symbolique monarchique qu'il avait choisie. Un étranger au royaume de France ferait sans doute remarquer que nombre de châteaux royaux à travers le monde privilégient surtout la salle du trône plutôt que la chambre du roi régnant. C'est vrai au palais royal de Madrid, celui qu'on appelle le palais d'Orient, qui a été reconstruit à partir de l'incendie de 1737. C'est vrai à Pékin, la cité interdite. C'est vrai à Copenhague. C'est vrai à Istanbul, chez les Turcs. En France, c'est différent. En France, le trône, qui nous apparaît comme étant une sorte de marque du pouvoir, compte beaucoup moins qu'ailleurs. Et à Versailles, d'ailleurs, le trône a souvent été déplacé. Et en l'absence du roi, lorsqu'il n'est pas installé sur son trône, on ne demande pas de la part des visiteurs de Versailles, on ne demande pas de saluer le trône, on ne demande pas de faire une révérence devant le trône. En revanche, la chambre du roi exige davantage d'égards. Il faut, en passant dans la chambre du roi, le roi étant absent, saluer le lit. Les dames sont tenues de faire une profonde révérence. Et il est interdit de faire un certain nombre de choses, aussi généralement, il est interdit de briser du tabac, enfin bref, il faut se tenir correctement, et les huissiers sont là pour faire respecter la noblesse de l'endroit. Alors, imaginez que Louis XIV n'aurait disposé que de la chambre située au centre du château, comme on peut la voir aujourd'hui, et ignorer combien cette chambre n'a cessé de déménager pendant 30 ans. Le lit a d'abord été dressé dans la pièce la plus somptueuse du château, du grand appartement, qui était le salon d'Apollon. C'était aussi la chambre de parade, destinée aux cérémonies, vous savez, du lever et du coucher du roi, mais également aux audiences importantes, aux affaires d'État. Donc ça, c'est la chambre officielle. Et puis, il y a aussi une chambre privée, qu'on appelle une petite chambre. Cette petite chambre, elle a occupé une place qui n'existe plus lorsque on a construit la grande galerie, la galerie des glaces. C'était un petit salon qui donnait sur la terrasse occidentale du château, qui s'appelait le salon de Saturne. C'était une pièce d'angle qui regardait à la fois le parterre occidental de la terrasse de l'enveloppe de Levaux. Bon, une chambre de parade, une petite chambre privée. Oui, mais à partir de l'installation de la cour à Versailles en 1682, quand le grand appartement est devenu l'appartement d'apparat, la chambre officielle a été déplacée du salon d'Apollon au salon voisin, au salon de Mercure. Quant à la chambre privée, d'abord, alors, donc on l'a enlevée de ce petit salon de Saturne, et puis on l'a placée de part et d'autre, parce qu'on l'a changé de place, de ce qui est aujourd'hui la chambre, et qui était un salon qui n'a pas de nom, on appelait le salon où le roi s'habille. Elle a été d'abord placée au nord, c'est-à-dire quand vous regardez le château à main droite, puis ensuite on l'a déplacée, on l'a mise à gauche, donc de ce salon où le roi s'habille. Eh bien cette chambre, on l'appelle la chambre de 1684, a été la chambre royale pendant 17 années. 17 années de survie. Donc, je précise à nouveau, elle occupe l'angle méridional, donc à main gauche, de la cour de marbre, et non pas le centre de la cour de marbre. Il a fallu attendre 1701 pour trouver la chambre du roi dans l'axe du château. C'est-à-dire que cette fameuse salle qu'on appelle le salon où le roi s'habille a été transformée, a été embellie et a accueilli la chambre du roi. On a condamné les trois arcades en plein cintre qui communiquaient avec la grande galerie et on en a fait l'alcôve où est placé le lit du roi. Par conséquent, Louis XIV n'a vécu que pendant les 14 dernières années de sa longue vie, 77 ans. Que les 14 dernières années dans une chambre qu'on imagine à tort avoir été la seule du château et dont on veut faire le manifeste de la symbolique apollinienne avec laquelle Louis XIV avait rompu depuis déjà plusieurs années. Quand je dis de symbolique apollinienne, je pense évidemment au décor de chacune des pièces des salons du grand appartement. Salon de Mercure, salon de Vénus, salon de Diane, que sais-je encore. Mais enfin, il y a des choses quand même qui sont surprenantes et qui ne collent pas avec cette symbolique apollinienne. Quand vous regardez au fond le bassin d'Apollon, le bassin d'Apollon, il est situé à l'ouest et il tire ses chevaux de l'onde à l'ouest. C'est-à-dire qu'à Versailles, vous avez une chance folle, le soleil se lève à l'ouest. Donc cette symbolique apollinienne sur laquelle beaucoup d'historiens d'ailleurs ont travaillé en disant des choses très très savantes, si vous voulez, mérite tout de même d'être nuancée, pour dire le moins, en quelque sorte. Donc voici quelques préjugés, quelques légendes, quelques partis pris, quelques idées fausses dont Versailles a été le prétexte depuis sa création. C'est pas par idéologie ou par nostalgie que j'essaye de les combattre. Est-ce que j'ai convaincu, pour beaucoup de nos contemporains, surtout pour ceux qui ont une sorte de paresse d'esprit, pour beaucoup de nos contemporains, la vérité historique ne peut rien contre les préjugés. On répète inlassablement une formule que Louis XIV n'a jamais prononcée parce qu'il ne pouvait pas la prononcer, c'est « l'État, c'est moi ». Ben on la répète malgré les historiens, malgré les études, on répète cette formule. Et c'est vrai que contre les préjugés, la vérité historique a bien du mal à se faire entendre. Proust disait que les faits ne pénètrent pas dans le monde où règnent nos passions. Les faits et nos passions, notre manière de penser, notre idéologie. Je ne voudrais quand même pas vous quitter sur une note trop pessimiste, mais j'ajouterai, si vous voulez, dans une sorte de clin d'œil, une formule d'un autre écrivain français, Anatole France, qui disait « Les livres d'histoire qui ne contiennent aucun mensonge sont très ennuyeux. » J'ai voulu ce soir faire mentir Anatole France, je me suis efforcé de ne pas vous mentir. Pour autant, j'espère ne pas avoir été ennuyé. Merci. J'ai pas le chiffre précis en tête, mais on le sait à partir d'un état des pièces du château de 1722. D'ailleurs, il me semble avoir lu tout à l'heure dans la pièce qui était l'antichambre de cette salle, André Lenôtre, l'explication qui concerne le grand commun, on a des chiffres concernant les appartements du grand commun, ça dépasse 150 si j'ai bien lu, il y avait plus d'ailleurs de locataires que 150 personnes. Donc c'est à partir de 1722 qu'on le sait véritablement. Et puis le deuxième aspect de votre question, c'est le nombre des courtisans. Alors ça, c'est une question difficile à régler, parce qu'il faut bien se rendre compte que Versailles, c'est une noria constante. On peut considérer que ceux qui sont vraiment des courtisans présents avec assiduité sont ceux qui ont bouche à la cour. C'est-à-dire qu'ils ont leur repas prévu, et nous sommes ici au grand commun, et c'est ici que se prépare justement cette alimentation des courtisans. Mais vous avez présent à la cour un jour un intendant de province qui vient rencontrer un ministre du roi et qui reste 2 jours. Vous avez un prélat qui vient faire l'état de son diocèse. Vous avez des visiteurs étrangers, vous avez des gentilshommes, des bourgeois parisiens ou provinciaux qui viennent également. Donc tout ça fait beaucoup de monde, et comme il n'y a pas de ticket d'entrée au château, on ne peut pas vraiment savoir le nombre de ces visiteurs. Vous savez que pour entrer au château, c'est tout simple, c'est un château qui est beaucoup plus ouvert que l'Élysée, hein, puisqu'il suffit d'avoir une épée au côté, mais puis d'être habillé décemment et ne pas être un ordre mendiant. Tenir un ordre mendiant. Enfin, comme le concierge loue des épées à l'entrée du château, il est assez facile d'y rentrer. Rappelez-vous d'ailleurs comment Damien est rentré dans les jardins et dans les cours du château en 1757. Et puis, il y a ceux qui exercent une fonction à la cour. Alors là, on peut mieux le savoir parce qu'il y a des registres. Je disais tout à l'heure 5000 personnes. Mais avec un service par quartier, c'est-à-dire par trimestre, on double. Mais dans ces 10 000, il y a des nobles et des roturiers. On peut tourner autour de ce chiffre, si vous voulez. Je crois que c'est à peu près vrai, sans en être absolument certain, bien évidemment, parce qu'il y a des moments où la cour est grosse. Les souverains, mais déjà c'était le cas de François Ier, voulaient avoir une cour grosse. Louis XIV est du même avis, bien évidemment. Et ce qui m'avait frappé lorsque j'avais travaillé sur la cour de France, c'est de voir qu'à la fin de l'Ancien Régime, le roi Louis XVI, son épouse Marie-Antoinette, avait tendance à, je ne vais pas employer l'expression triviale de rameuter, mais c'était un peu ça. Viendriez-vous dimanche à Versailles? Vous imaginez la reine de France qui s'adresse à des gens, viendriez-vous? Ferez-vous l'honneur d'être présent à Versailles ce dimanche? Ça veut dire qu'il y avait une relative, désaffection à l'égard de la ville cour et du château. Donc vous voyez, c'est dommage de ne pas vous donner une réponse qui claque comme ça, mais c'est toute une affaire de nuances et d'appréciation.
Oui, j'ai une question. Je peux me passer le micro, je pense.
Je vous entends.
j'ai une notion que Louis XIV se serait lassé à la fin de son règne de l'aspect brique et pierre de son château. Est-ce que...
Oui.
Alors, je ne l'ai jamais lu d'une part, je l'ai entendu par des conférenciers, voire des conservateurs. Est-ce que vous avez rencontré...
Oui, la réponse est... Pardon. La réponse est oui. C'est ce que j'ai suggéré tout à l'heure, mais il était naturel que vous n'y prêtiez pas attention. Lorsque je vous ai dit que, à l'exception de la chapelle royale, l'ouverture de la guerre de succession d'Espagne avait bloqué toutes les transformations possibles. Je sous-entendais là des projets de transformation du château. Mais alors, donc Louis XIV y a songé sans y accorder une importance considérable. Il faut quand même se rappeler que c'est un vieux monsieur. Enfin, pour l'époque, bien entendu. Par conséquent, refaire le château, ça paraissait quand même excessif. Mais comme moi, vous savez que ça a été de grands projets d'architectes, Gabriel et autres, au XVIIIe siècle, c'est plus connu. On arrive même à se demander, pardonnez-moi mon cynisme, mais c'est que finalement la guerre de succession d'Espagne nous a permis de conserver le côté brique et pierre du château et du côté de la ville.
Écoutez, merci beaucoup, monsieur Saint-Bon. Je crois qu'on va prendre le temps maintenant de regarder vos ouvrages.
Merci à vous.
D'habitude, il n'y a pas de micro ?
Non, il y en a toujours un seul, mais tout à l'heure, il y en avait deux, j'aurais peut-être
eu. Non, 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 non,